Ben, je crois qu'on vient de voir un film remarquable, excellent, qui pose bien quantité de questions. Mais avant d'en arriver là, je vais quand même vous dire quelques mots du noyau central qui est à l'origine du film. Bien sûr, les Américains en ont fait un film, ils ont fait d'autres développements, mais l'histoire réelle au départ s'est produite en Allemagne. Et alors, en réalité, le vrai nom de la possédée, c'est Anneliese Michel, qui est née à Klingenberg en 1952, à Laifling, c'est ça. Puis après ça, elle a vécu à Klingenberg. Et alors, elle a eu de premières attaques déjà en 1968. Vous voyez, elle est née en 52, en 68 déjà. Elle s'évanouit simplement, et puis la nuit suivante, elle s'éveille paralysée. Respiration difficile, angoisse, écoulement d'urine, et elle est incapable de parler, d'appeler à l'aide pendant une quinzaine de minutes. Et puis ça va se reproduire dans la nuit du 23 au 24 août 1969, l'année suivante. Et puis ça va se reproduire encore deux jours plus tard. Alors à ce moment-là, on la conduit tout de même vers un neurologue, le docteur Lutti, qui fait donc un électroencéphalogramme sans résultat. Puis elle a des angines, des inflammations de la plèvre, des poumons, tuberculose, sanatorium, etc. Elle va avoir en 70 une troisième attaque. Mais cette fois, elle peut crier. À ce moment-là, on la conduit à un neurologue, le docteur von Haller. Elle retourne en classe. Puis là, elle a une quatrième attaque, des dépressions, de courtes absences. En 72, une cinquième attaque. Vous voyez que c'est tout un long processus qui se développe. Là, le docteur Lutti lui ordonne du tsentropil. Elle va en prendre pendant plus d'un an. Et puis, elle commence à percevoir des odeurs désagréables et avoir des visages grimaçants, comme on vous l'a montré. Au printemps 73, il y a des coups frappés, mais entendus par toute la famille. Elle a des impressions d'être en enfer. Son père l'emmène à ce moment-là faire un pèlerinage à San Damiano. On commence déjà à espérer un secours religieux. Elle ne peut plus entrer dans une église. Ça lui fait trop mal, elle refuse, elle se débat, etc. Elle ne peut plus voir une image du Christ. Elle devient de plus en plus agressive, elle a une voix grave et commence à répandre une odeur fécale. Et on l'amène en nouveau en 73 vers le docteur Lutti, et à ce moment-là, c'est elle-même qui commence à comprendre qu'elle est possédée. Et la famille, à ce moment-là, commence à se tourner vers le clergé, notamment le curé Ernst Alt. Et à partir de ce moment-là, c'est surtout le clergé qui va s'en occuper, et voilà que le curé auquel on la confie va avoir lui-même aussi des phénomènes paranormaux, ce qui est relativement fréquent. En 73, elle commence quand même des études à la Pédagogische Hochschule de Würzburg, mais elle prend toujours du tsentropil, dépression, visage grimaçant, mauvaises odeurs, etc. On l'emmène à la clinique universitaire de Würzburg. Là, elle présente des symptômes d'épilepsie à l'hémisphère gauche. On lui donne un nouveau traitement plus fort, du tégrétal. Printemps 75, la répulsion vers les objets religieux s'accentue. Elle commence à ne plus pouvoir manger. Elle vomit aussitôt et on fait d'abord un petit exorcisme. Puis en 75, l'évêque de Würzburg s'adresse au père Renz qui va pratiquer le grand exorcisme. Elle se débat, elle se blesse elle-même, elle maigrit. Elle se sent obligée de faire des génuflexions innombrables jusqu'à 600 par jour. Vous voyez un petit peu ce que ça peut représenter comme fatigue. Elle ne mange plus, ne boit pas, pousse des cris, des hurlements. Et en 76, le 1er juillet, vers 1h du matin, elle meurt. À ce moment-là, le père Alt avait amené un ami médecin, en vain. Devant la famille, il reconnaît son impuissance. On fait une autopsie et le diagnostic, c'est qu'elle est morte d'épuisement, faute de nourriture. Elle ne pesait plus que 31 kilos et trop d'efforts. Alors à ce moment-là, la presse va se déchaîner. En 30 mars, 28 avril 1978, à Aschaffenbourg, le scandale va se répandre dans toute l'Allemagne et la presse exige une sanction exemplaire contre les prêtres exorcistes, la famille. C'est tout juste si on va pouvoir éviter que l'évêque lui-même se trouve condamné. Et là, les termes, c'est d'ignorer et éradiquer complètement l'ignorance, en finir avec le Moyen-Âge, etc. Et donc la presse, là, exige une condamnation sévère. Tout le procès est dominé par des experts psychologues, psychiatres. Ils diagnostiquent, comme vous l'avez vu, épilepsie longtemps réprimée par le sénotropyl, puis forme de psychose psychogène, etc. Alors, ce qui va se passer, l'avocate cherche en vain un expert en théologie. Tous se dérobent, c'est normal, dans l'état actuel des choses. Et finalement, les parents et les prêtres exorcistes vont être condamnés à 6 mois de prison avec sursis et aux frais du procès. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la conseillère du film, Felicitas Goodman, est une germano-hongroise qui a immigré aux États-Unis en 1947. Elle est anthropologue, elle a étudié les phénomènes culturels, religieux, la psychiatrie, la neurologie. Elle a fondé en 80 à New Mexico un institut pour l'étude des états religieux exceptionnels. Elle croyait personnellement aux phénomènes de possession, souvent rituels. Elle avait étudié ça chez les pentecôtistes et chez les Indiens du Yucatan. Et entendant parler de ce cas, vous voyez que d'Allemagne, ça finit par être connu jusqu'aux États-Unis, elle se dit à quelque chose qui ne colle pas dans le procès, car normalement, les forces du mal peuvent faire souffrir le possédé, peuvent le blesser, le rendre infirme, ils n'ont pas le droit de vie et de mort. Et alors, à ce moment-là, elle se fait envoyer le dossier. Étant donné son origine germano-hongroise, elle n'a aucune peine à lire tout le dossier en allemand, et elle va prouver qu'en réalité, ce sont les médecins qui ont tué Annalisa Michel. Car en cas de traitement prolongé du tétragral, il fallait toutes les semaines, puis tous les mois, faire des analyses de sang et un examen du foie. Le tégrétal, je prononçais mal, tégrétal peut provoquer effectivement des symptômes épileptiques. Mais normalement, il peut provoquer des dégâts considérables, et c'est ça qui ont tué Annalisa Michel. À ce moment-là, il y a eu un essai de la part des parents d'obtenir une révision du procès, mais évidemment, tous les psychiatres et les médecins s'y sont opposés et jamais le procès n'a pu être réouvert. Voilà un petit peu les faits authentiques derrière l'histoire. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que d'autres détails qui se figurent dans le film ne sont pas authentiques, mais ne viennent pas forcément directement de cette histoire-là. Voilà pour l'essentiel.